Our dear brothers and sisters, our dear friends,
chers frères et sœurs, chers amis, joyeux Noël à vous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la Première Présidence. Et nous vous exprimons notre reconnaissance sincère pour l'occasion que nous avons d'être avec vous, pour nous souvenir avec gratitude de la naissance, de la vie et de la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Thomas S. Monson, qui préside cette veillée, m'a demandé de la diriger. Nous exprimons notre amour et adressons nos vœux de Noël les plus chaleureux à chacun de vous, où que vous soyez. La musique de cette veillée sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon et l'orchestre de Temple Square, dirigé par Mac Wilberg et Ryan Murphy, et accompagné à l'orgue par Clay Christensen. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant On the Glory of the Lord, tiré du Messie. Ensuite, Carol M. Stephens, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera la prière d'ouverture.
Notre Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour cette occasion d'être réunis ce soir pour nous souvenir de ton Fils, ce précieux don pour nous. Nous sommes si reconnaissants de nous réunir sous la direction d'un prophète, le président Thomas S. Monson. Nous l'aimons et nous le soutenons, ainsi que ses conseillers, le président Ehring et le président Urdorf. Nous te remercions pour ceux qui se sont préparés à parler et pour la musique qui a été préparée. Et nous prions pour que tu nous bénisses, pour que nous ayons un cœur bien disposé, des yeux ouverts pour voir, des oreilles attentives pour entendre et un cœur sensible. Bénis-nous pour que nous ayons l'abondance de ton esprit ce soir, pour que nous puissions être enseignés dans les choses que tu veux que nous apprenions et comprenions, et que nous puissions devenir ce que tu attends de nous pour remplir ton œuvre ici sur la terre. Père, nous t'aimons, nous te remercions pour le don précieux que tu nous as fait. Nous te remercions pour ton Fils, pour sa naissance et son exemple pour chacun d'entre nous. Puissions-nous chaque jour nous efforcer de lui ressembler davantage. Nous prions pour avoir ton esprit en abondance, afin que nous puissions être enseignés. Et nous disons cela humblement, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Richard G. Maines, de la présidence des 70. Après son message, le chœur chantera « Still, still, still ». Puis Bonnie L. Oscarson, présidente générale des jeunes filles, prendra la parole. Après son message, le chœur chantera « Venez tous fidèles ». Nous entendrons ensuite D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres. Puis le chœur chantera « Premier Noël ». Il semble inévitable que la période de Noël suscite les sentiments les plus tendres et aimants envers le Sauveur et sa famille. L'histoire de Noël est une histoire familiale. En effet, les récits de la naissance du Christ que nous avons dans le Nouveau Testament, en particulier dans Matthieu et Luc, sont peut-être les récits d'histoire familiale les mieux documentés jamais donnés. En plus d'une généalogie étendue et détaillée, nous ne trouvons peut-être nulle part ailleurs dans toute la littérature religieuse ou profane de récits plus tendres et émouvants d'unité familiale, de sacrifice, d'amour et de service. L'histoire de Noël est une histoire familiale qui lie les cieux et la terre. Chaque membre de la famille terrestre de Jésus, Marie, Joseph et Jésus, est un exemple divin de cadeau de Noël que Dieu a fait à toute l'humanité. L'histoire de Noël doit nous motiver spirituellement à acquérir les qualités de cette sainte famille. La famille a été unie en recherchant la gloire de Dieu. Les membres de la famille ont été unis en se servant les uns les autres, unis en accomplissant la volonté de Dieu et unis dans le sacrifice, l'obéissance et l'amour. Cette sainte famille nous donne un exemple des qualités qui, si nous nous attachons à les acquérir dans notre famille, nous permettront de jouir des mêmes bénédictions, l'unité et l'amour qu'ils ont reçus. Examinons premièrement les qualités de Marie, qui fut choisie par Dieu pour être la mère de Jésus-Christ. De toutes les femmes au monde, notre Père Céleste choisit une femme ordinaire qui vivait dans la petite ville de Nazareth. Ce n'était pas une femme d'une grande richesse ou stature, mais elle possédait la sainteté, l'obéissance, l'humilité et une grande foi. Marie nous enseigne l'importance de faire confiance au Seigneur. Sa foi en Dieu fut éprouvée quand un ange du Seigneur lui dit qu'elle donnerait miraculeusement naissance au Sauveur. Je cite, « L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Fin de citation. Le cantique de Noël, Once in Royal David City, évoque la situation de cette fille de choix de Dieu. Il y avait dans la ville royale de David une humble étable où une mère déposa son bébé dans une crèche car il n'y avait pas de lit. Marie, cette douce maman, Jésus, son petit enfant. Marie comprit sa véritable nature divine et se soumit de plein gré à son rôle maternel unique. Marie trouva de la joie à être obéissante. En effet, elle déclara, « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » La magnifique foi de Marie se voit dans sa confiance respectueuse en son Père céleste. Examinons maintenant les qualités de Joseph. Joseph était un homme humble, d'une intégrité totale. Je cite, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Fin de citation. Comment l'homme naturel réagirait-il à une situation aussi inhabituelle? Joseph répondit avec une grande intégrité et une grande maturité spirituelle. Dans son livre « Jésus le Christ », James Talmadge donne son avis sur cette situation très inhabituelle. Or, la loi juive prévoyait deux modalités d'annulation des fiançailles, par un jugement public ou par un accord privé attesté par un document écrit et signé en la présence de témoins. Joseph était un homme juste, strict observateur de la loi, sans être toutefois extrémiste. En outre, il aimait Marie et voulait lui épargner toute humiliation inutile, quel que puisse être son propre chagrin et ses propres souffrances. Par amour pour Marie, il craignait que la chose ne fût rendue publique et décida pour cette raison de faire annuler les fiançailles d'une manière aussi privée que la loi le permettait. Le désir de Joseph était de libérer Marie en secret de son obligation de se marier. Joseph était attentif à son bien-être et à son estime de soi. Il voulait la protéger autant que possible. Pendant qu'il réfléchissait à la façon de procéder dans cette situation délicate, voici ce qui arriva. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Pensez à quel point notre Père Céleste faisait confiance à Joseph. Il lui fit confiance pour élever son fils bien-aimé avec une sollicitude aimante. Il lui fit confiance pour protéger Jésus et Marie. Joseph gagna cette confiance par son humilité, sa patience, son obéissance et sa volonté de se soumettre à celle du Seigneur. Il fit montre de toutes ses qualités parce qu'il était d'abord un homme d'une intégrité totale. Voyons maintenant l'exemple de Jésus-Christ, qui remplit avec une obéissance parfaite son rôle de Christ. Il nous offre l'exemple d'obéissance, d'amour pur, de sacrifice et de loyauté au plan de notre Père Céleste. Son exemple d'obéissance s'illustre par la soumission de sa volonté à celle de son Père. Il déclara aux Néphites, Voici, je vous ai donné mon évangile, et ceci est l'évangile que je vous ai donné, que je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé. Il montra la voie en faisant la volonté du Père, et la volonté du Père était que son Fils unique endure toutes les épreuves de la vie que nous pouvons rencontrer, et même plus. Le prophète Alma témoigne, et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lie son peuple. Jésus-Christ nous aide aussi à comprendre la véritable signification et l'importance de l'amour en étant l'exemple parfait de cet attribut saint et en nous commandant ensuite de suivre son exemple. Au verset 10 à 13 de Jean 15, nous lisons « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour pur que Jésus-Christ ressent pour nous, ses frères et sœurs, s'illustre par son sacrifice. Malgré toutes ces épreuves, Jésus a montré l'exemple parfait de loyauté et de soumission à la volonté de son Père. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a été littéralement le Fils parfait. Il a montré avec succès, tout au long de sa vie, tous les attributs célestes que nous aurons besoin d'acquérir pour obtenir notre exaltation. Frères et sœurs, cette sainte famille, Jésus-Christ, Marie et Joseph nous donnent un exemple des vertus divines qui, si nous nous attachons à les acquérir, nous ramèneront sûrement en la présence de Dieu dans le royaume céleste. Si nous mettons en pratique quotidiennement les vertus que cette sainte famille a manifestées, nous célébrerons ainsi Noël chaque jour de l'année et nous en viendrons à comprendre l'histoire de Noël pour ce qu'elle est vraiment, une histoire familiale qui nous enseigne comment avoir de la joie dans cette vie et dans celle à venir. J'en rends solennellement témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. Merry Christmas,
everyone. Joyeux Noël à tous. C'est une période merveilleuse de l'année pendant laquelle des miracles s'accomplissent. Les cœurs sont adoucis et l'on ressent et vit l'amour pur du Christ, plus qu'à n'importe quelle autre période de l'année. C'est le moment où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu dans la chair. Autour de nous, nous voyons des représentations des humbles conditions de la naissance de Jésus, une étable, une jeune et belle vierge, un mari soucieux et compatissant, et surtout, un tout petit bébé, différent de tous les autres bébés nés sur cette terre. Un jour, Gordon B. Hinckley a cité E.T. Sullivan qui disait « Quand Dieu veut voir accomplir une grande œuvre sur terre ou voir redresser un grand tort, il s'y prend d'une manière très inhabituelle. Il ne met pas en branle ses tremblements de terre ni n'envoie ses coups de tonnerre. Au lieu de cela, il fait naître un bébé sans défense, puis il attend. Les plus grandes forces au monde ne sont pas les tremblements de terre ni les coups de tonnerre. Ce sont les bébés. » Remarquez la grande patience dont Dieu le Père fait preuve en laissant se dérouler son plan pour ses enfants. À l'époque, le Sauveur du monde n'est pas venu sur terre dans une grande manifestation de pouvoir et de majesté. Il est venu en bébé sans défense. Cet enfant Christ était sans aucun doute l'une des plus grandes forces de ce monde. Néanmoins, il est né dans une simple étable, avec pour lit de la paille dans une mangeoire. Grâce à lui et par lui, des mondes ont été et sont créés, et les habitants sont des fils et des filles de Dieu. Pourtant, selon la tradition, il a partagé l'endroit où il est né avec des moutons et des bœufs. Il allait devenir le sauveur de toute l'humanité. Pourtant, il n'y avait pas de place à l'auberge pour sa mère enceinte et son mari inquiet. Il est notre Rédempteur. Pourtant, les premiers à lui rendre visite ont été d'humbles bergers. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles méditer avec émerveillement dans les circonstances qui entourent ces événements. Pour moi, l'un des plus grands miracles de l'histoire de Noël est l'amour qu'elle reflète. C'est tout d'abord l'amour que notre Père Céleste a pour ses enfants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour que le Sauveur a pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour de Dieu a été décrit comme étant le genre d'amour le plus haut, le plus noble, le plus fort et le plus joyeux pour l'âme. L'esprit d'amour et de compassion semble être particulièrement fort à l'époque de Noël. Il y a quelques années, une de nos filles vivait dans la région de Washington, D.C. Un soir, elle est allée à une réunion de société de secours pendant laquelle tout le monde devait raconter une histoire de la vie de l'un de ses ancêtres. Elle a écouté une sœur nommée Donna raconter une histoire qui avait eu une grande importance pour sa famille de génération en génération et qui impliquait un acte simple de gentillesse accompli à l'époque de Noël. Notre fille a été stupéfaite d'entendre que la personne qui avait fait preuve de gentillesse était son propre arrière-arrière-grand-père. Cela a été une belle expérience pour Donna et notre fille d'échanger leurs notes et de voir comment la vie de leur ancêtre avait touché par l'ancêtre de l'autre. Avec la permission de Donna, je vais raconter une partie de son histoire. Elle se place dans une petite ville d'Utah en décembre 1901. Il y avait une famille composée d'une mère, d'un père et de 8 enfants. L'année avait été difficile. L'un des enfants avait une santé fragile qui épuisait les ressources de la famille et l'énergie de la mère. La veille de Noël, la mère dit à ses enfants impatients que le Père Noël ne passerait pas cette année. Elle n'avait tout simplement pas pu se procurer l'argent et l'énergie nécessaires pour préparer quoi que ce soit pour eux. Les aînés gardaient espoir et le plus grand fils commença à accrocher les chaussettes sur la cheminée. Sa mère lui dit gentiment que le Père Noël ne passerait pas, mais le garçon lui soutenait qu'elle avait sûrement tort. Elle finit par suggérer qu'au lieu de suspendre des chaussettes, ils mettent une assiette pour chaque membre de la famille sur la table. Cela confirma aux enfants qu'ils allaient recevoir quelque chose. Ils allèrent donc se coucher. Le matin de Noël, ils se réveillèrent tous, s'habillèrent et allèrent dans la salle à manger, impatients de voir quel cadeau ils avaient reçu. Ils trouvèrent un grand cornichon dans chaque assiette. Leurs yeux se remplirent de larmes de déception et ils s'apprêtaient tous à retourner dans leur chambre pour qu'on ne les remarque pas. Leur mère s'en aperçut et dit « Les enfants, je n'avais rien d'autre et je ne supportais pas l'idée de laisser vos assiettes vides. » Sa voix se brisa, mais elle poursuivit courageusement. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Leur père se joignit à la conversation et leur rappela qu'ils recevaient effectivement beaucoup de bénédictions, notamment une famille aimante, l'amélioration de la santé de ceux qui avaient été malades durant l'année, et la nourriture sur leur table. Les esprits s'égayèrent, et alors qu'ils commençaient à célébrer ce jour, le plus grand fils sorta à la table et fut surpris de trouver 10 centimes près de son assiette. Il était certain que le Père Noël était passé et avait laissé la pièce pour qu'ils achètent des bonbons. Il enfila son manteau et courut dehors. Les magasins étaient tous fermés, cependant Jed Stringham, qui tenait l'épicerie du village, vivait juste à côté de son magasin. Le garçon frappa à la porte de la maison de Jed et lui demanda de l'excuser de le déranger le jour de Noël. Mais il lui expliqua que le Père Noël leur avait laissé 10 centimes et qu'il espérait que frère Stringham voudrait bien ouvrir son magasin pour lui vendre quelques bonbons pour les petits de la famille. Jed répondit « Bien sûr, viens ». Quand le garçon rentra chez lui avec un grand sac de bonbons, il expliqua plein d'enthousiasme que frère Stringham avait pris une pelletée de chaque boîte de bonbons. Il les lui avait donnés en disant « Apporte ces 10 centimes de bonbons à tes petits frères et sœurs et prends-en un peu aussi. » Il était évident que Jed Stringham avait été très généreux et lui en avait donné pour beaucoup plus que 10 centimes. Il y en avait plein pour tous les enfants. Ces derniers se rappellent avoir entendu leur mère dire « Que Dieu bénisse frère Stringham ». Frère Stringham ne fit pas un grand sacrifice et cela ne lui demanda pas beaucoup d'efforts. Mais cette histoire de la pièce miraculeuse et de ses bonbons a suffisamment marqué la famille pour qu'elle l'écrive et qu'on la raconte encore et encore pendant des années dans la famille de Donna. Ce sont parfois les petites choses qui ont le plus de valeur. Quand notre fille a entendu cette histoire, elle a reconnu le nom de Jed Stringham comme étant celui de son arrière-arrière-grand-père. Et elle a été touchée de voir qu'il avait ouvert non seulement son magasin, mais aussi son cœur, par cet acte simple de gentillesse en ce mémorable matin de Noël. Notre famille n'avait jamais entendu cette histoire et nous sommes reconnaissants d'en avoir reçu une copie qui fera partie de notre histoire familiale. Cela rappelle à nos deux familles que les gens qui ont fait alliance d'être les témoins du Sauveur du monde doivent toujours s'efforcer d'être généreux de leur temps et de leurs moyens pour le bien des personnes qui les entourent, spécialement à Noël quand le cœur des enfants et des parents est le plus tendre. L'esprit de Noël nous rend plus charitables, plus attentionnés et plus gentils. Les Écritures nous enseignent que tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Ce sentiment qui contraint même l'esprit le plus revêche à faire preuve de gentillesse fraternelle à Noël vient de Dieu. En cette période de l'année, combien plus remplis d'amour et de compassion sont les personnes qui s'efforcent déjà de devenir semblables au Sauveur. L'esprit de Noël, c'est l'amour chrétien. Pour renforcer l'esprit de Noël, nous devons tendre généreusement la main aux personnes qui nous entourent et donner de nous-mêmes. Les meilleurs cadeaux ne sont pas matériels. Les meilleurs cadeaux sont l'écoute, la gentillesse, le souvenir, les visites, le pardon et le temps que l'on donne. Mon arrière-grand-père Stringham m'a appris que parfois, ce sont les petites choses et les actes simples qui ont le plus grand impact. En célébrant la naissance de Jésus-Christ cette année, célébrons aussi tout ce qu'elle symbolise, en particulier son amour. Quand nous voyons des bergers, puissions-nous nous rappeler d'être humbles. Quand nous voyons des mages, puissions-nous nous rappeler d'être généreux. Quand nous voyons l'étoile, puissions-nous nous rappeler la lumière du Christ qui donne la vie et la lumière à toutes choses. Quand nous voyons un petit bébé, puissions-nous nous rappeler d'aimer avec tendresse, compassion et inconditionnellement. Puissions-nous ouvrir les portes de notre cœur et tendre la main aux personnes qui sont seules, oubliées et pauvres d'esprit qui nous entourent. Quand nous réfléchissons à l'exemple et au sacrifice infini du Sauveur, puissions-nous aussi réfléchir à la façon dont nous pouvons avoir une attitude plus chrétienne envers notre famille et nos amis, pas seulement en cette période, mais tout au long de l'année. Je prie pour que nous soyons tous remplis de l'esprit et de l'amour de Noël. Je témoigne que nous avons un Père Céleste aimant. Son plan de bonheur est l'expression suprême de son amour. Puissions-nous toujours nous souvenir qu'un jour nous avons poussé des cris de joie quand nous avons compris ce plan. Je témoigne que Jésus-Christ, dont nous honorons et célébrons la naissance et la mission, est la lumière du monde, notre Sauveur et Rédempteur, notre espoir, notre ancre et l'auteur de notre salut. Cette connaissance apporte tant de joie. Puissions-nous tous ressentir l'amour du Sauveur en abondance en cette période de Noël. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Come, you come, you to Bethlehem. Voici une histoire qui ne prend pas une ride. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il nous paraît remarquable que le Fils de Dieu lui-même, le grand Jéhovah d'autrefois, soit né dans ce monde mortel dans les plus humbles circonstances. Une auberge aurait été suffisamment humble, mais ce ne fut même pas une auberge qu'il naquit, ce fut dans une étable. Et l'on coucha le nouveau-né sur la paille d'une mangeoire où se nourrissaient des animaux communs. Une grande preuve de condescendance aurait déjà été que Jésus se soumette à la mortalité, même s'il avait dû naître dans les circonstances les meilleures et les plus élégantes. Avec Paul, nous nous émerveillons que Dieu ait envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et qu'il soit devenu un bébé, qu'il ait été un enfant, puis un homme subissant les tentations, la souffrance du corps, la faim, la soif et la fatigue et même la mort. Comment se fait-il que celui qui régnait au plus haut des cieux, le Créateur même de la terre, et consenti à naître dans la chair et à demeurer sur son marche-pied dans la pauvreté, méprisé et victime de mauvais traitements, puis finir crucifié. Pourquoi cette dégradation quasi inconcevable? Jésus a expliqué, « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Fidèlement, Jésus supporta tout ce qui était nécessaire dans la vie et dans la mort, pour expier, racheter et établir un modèle céleste pour les enfants de Dieu, pour nous. Il était essentiel que le Fils de Dieu naisse dans la chair et descende au-dessous de tout, afin de tout racheter. Paul a dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, afin de remplir toutes choses. Puis, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Dans la Révélation moderne, nous lisons « Lui qui est monté là-haut, de même qu'il est descendu au-dessous de tout, en sorte qu'il a compris toutes choses, afin d'être en tout et à travers tout la lumière de la vérité. » Laquelle lumière brille? C'est la lumière du Christ. Jésus était le premier-né des esprits et le Fils unique de Dieu dans la chair. Bien que nous ne soyons pas engendrés de Dieu dans la chair, nous sommes tous comme Jésus, la postérité spirituelle de Dieu. Ainsi, notre naissance dans la mortalité est aussi un peu une condescendance et a, comme celle du Christ, un but noble. Tout comme Jésus, nous sommes descendus du ciel pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés et pour réaliser, par la grâce du Christ, l'immortalité et la vie éternelle. N'était-il pas important pour nous, tandis que nous nous efforçons de nous élever, de descendre aussi au-dessous d'au moins quelque chose, afin de comprendre plus pleinement le Christ et de devenir plus semblable à lui? Si Jésus avait besoin de certaines expériences, se peut-il que nous ayons, nous aussi, besoin de certaines difficultés et de certaines épreuves, afin que nos entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin que nous sachions, selon la chair, comment nous secourir les uns les autres selon nos infirmités? Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, pendant que ce dernier était incarné dans la prison de Liberty au Missouri, certaines choses que Joseph devait encore subir. Puis il a dit, « Toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui ?» En cette période de l'année, je me rappelle l'expérience poignante de Joseph Smith, le sixième président de l'Église, plus tôt dans sa vie, quand il était jeune père de famille. Il travaillait au bureau de la dîme de l'Église, de 6 heures du matin à 11 heures du soir, et recevait pour son travail 3 dollars par jour d'argent de la dîme. Cela veut dire qu'il pouvait aller au magasin de la dîme et échanger son bon d'achat contre de la farine, de la viande ou de la mélasse. Au moins, sa famille avait-elle de la nourriture? Pas beaucoup, il est vrai, et pas d'argent. Il a décrit ce qu'il a éprouvé cette année-là, où il aspirait à donner à sa famille un Noël merveilleux. En sortant de chez moi, j'étais animé de sentiments que je ne puis décrire. Je voulais faire quelque chose pour mes enfants, quelque chose qui leur fasse plaisir et qui distingue le jour de Noël de tous les autres. Mais je n'avais pas un centime pour le faire. J'ai parcouru Main Street en long et en large, regardant la devanture de chaque magasin, puis je me suis retiré de la vue des humains. Je me suis assis et j'ai pleuré comme un enfant. Après avoir donné libre cours à mon chagrin et avoir soulagé mon cœur douloureux, je suis rentré chez moi, les mains aussi vides qu'avant, et j'ai joué avec mes enfants, reconnaissant et heureux de les avoir. Joseph F. Smith a été élevé sans son père, Hiram Smith. Dans sa jeunesse, il était parfois difficile et indiscipliné. Je ne peux m'empêcher de penser que cette expérience et d'autres ont contribué à faire de lui l'homme fort, tendre et spirituellement sensible qu'il est devenu. Tout comme le Sauveur qui a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les expériences du Sauveur dans la condition mortelle avaient un but rédempteur. Ces expériences comportaient, bien entendu, une vie de service quasi continuelle à ses semblables. Si nous regardons constamment vers lui, en nous reposant les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint-Messie, tout ce que nous vivrons nous rendra nous aussi meilleurs et nous portera à mieux nous servir et à secourir les uns et les autres. À Noël, en réfléchissant à la naissance de Jésus et à sa vie exemplaire, nous sommes plus portés à pousser dans nos expériences et nos ressources pour faire du bien aux autres, comme il l'a fait. Les histoires de gens qui aident et bénissent les autres pendant la période de Noël sont légion. C'est bien entendu l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous réjouissons tant en cette période de Noël. L'une de ces histoires s'est produite il y a tout juste quelques semaines à West Jordan, en Utah. Ethan Von Lumen, 4 ans, luttait contre une forme aiguë de leucémie depuis l'âge de 2 ans. Il avait traité au moyen d'un médicament en cours d'expérimentation, de radiothérapie et d'une transplantation de moelle osseuse. Le cancer avait été en rémission pendant quelque temps, mais depuis octobre dernier, il était incontrôlable et incurable. Le père d'Ethan, Merrill, et sa femme, Jane, se sont rendus compte que leur petit garçon ne serait bientôt plus. Merrill a dit, « Je veux qu'il sache combien je suis fier qu'il ait mené ce combat et qu'au milieu de ses difficultés, il était un tel exemplaire de foi et de force pour moi. » Halloween approchait, fin octobre. L'anniversaire d'Ethan était en novembre, et sa fête préférée, Noël, allait être le mois suivant. Quand il apparut qu'Ethan ne vivait pas assez longtemps pour connaître ces 3 fêtes une dernière fois, les membres de sa famille et de son pieu, ainsi que d'autres voisins et amis, se sont unis pour organiser ces fêtes pour Ethan une semaine. Halloween le mardi, son anniversaire le jeudi, la veille de Noël le vendredi et le jour de Noël le samedi. Les parents d'Ethan, qui avaient souvent aidé les autres, ont alors accepté avec reconnaissance l'aide que tant de gens voulaient lui apporter. La veille de Noël, le 24 octobre, le Père Noël est arrivé chez les Van Lerum sur un camion de pompiers. Certains ont donné des cadeaux. Un garçon de 13 ans, inconnu de la famille, a donné sa collection d'animaux empaillés qu'il fabriquait depuis des années. Une station de radio a passé de la musique de Noël pendant 3 heures le soir pour Ethan et sa famille. Plus de 150 personnes se sont pressées devant la maison d'Evan Luden et ont chanté des chants de Noël. Des membres de la paroisse ont fait une crèche vivante sur la pelouse. Un petit bébé représentait l'enfant Jésus. La famille a été emmenée dans une remarque chargée de foi tirée par un tracteur dans le quartier, où les voisins avaient décoré leur maison de lumières de Noël. Ensuite, Ethan et sa famille sont rentrés chez eux pour un réveillon de Noël en privé, et ils ont célébré Noël le samedi, mettant ainsi fin à leur semaine de fête. Ethan est mort 3 jours plus tard, laissant une famille et une ville enrichies par son exemple et leurs actes d'amour et de service pour rendre heureux les derniers jours d'un enfant malade. À Noël, comme nous le voyons, les histoires de sacrifice et de service se multiplient. Nos cadeaux et nos services peuvent réjouir des cœurs. La gentillesse des autres peut verser un baume guérisseur sur nos blessures. C'est vivre à la manière du Sauveur. Et puisque, comme lui, nous sommes descendus du ciel pour faire la volonté du Père, ce ne doit pas être seulement un événement annuel, mais notre manière de vivre. Dans tout ce qui concourt à approfondir notre compassion, à accroître notre compréhension et à purifier notre âme, les paroles du Christ nous rassurent. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je me réjouis de témoigner de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et je vous donne à tous ma bénédiction en ce Noël, au nom de Jésus-Christ. Amen.
We express appreciation.
Nous exprimons notre reconnaissance au chœur du Tabernacle Mormon et à l'orchestre de Temple Square pour la merveilleuse musique de Noël qui a empli notre cœur. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé à ce programme et nous saluons les efforts de toutes celles qui ont contribué de quelque manière que ce soit à rendre cette veillée possible. Henri B. Ehring, premier conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette veillée. Après le message du président Ehring, le chœur chantera « Douce nuit, sainte nuit ».
Brother Murphy, the director of the choir.
Au signal de Frère Murphy, le chœur et l'assemblée chanteront ensemble le troisième couplet de ce chant de Noël populaire. Ensuite, Devin Durand, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière de clôture.
Je remercie le président Monson pour l'invitation de représenter la première présidence lors de cette veillée de Noël. J'ajoute ma reconnaissance aux paroles du président Ohrdorf pour la magnifique musique du chœur du tabernacle et de l'orchestre. Ce soir, notre cœur s'est rapproché du Sauveur et notre engagement de le suivre a été renforcé. Les magnifiques lumières installées dans ce centre de conférence sont un symbole de la joie que nous avons ressentie. Le Sauveur est venu au monde, accompagné de lumière. Cette lumière était destinée à confirmer et célébrer son arrivée. Souvenez-vous du récit qui en est fait. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. L'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est Christ, le Seigneur. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Au cours de cette nuit sacrée, ils ont été poussés à se rendre auprès du Sauveur. Ce qu'ils ont vu de leurs yeux physiques dans l'étable était un minuscule bébé. Ce qu'ils étaient venus vérifier n'était visible qu'à travers des sentiments spirituels. Nous savons que la lumière du Christ est une influence et que nous pouvons la reconnaître à ses effets. Le Sauveur a dit, je cite, « Car voici, c'est moi qui parle. Voici, je suis la lumière qui brille dans les ténèbres, et c'est par ma puissance que je te donne ces paroles. » Et maintenant, en vérité, je te le dis, place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien. Oui, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture. Et c'est là qu'est mon esprit. C'est là mon esprit. En vérité, je te le dis, je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. J'ai perçu cette lumière, cette joie et le désir de bien faire lorsque notre premier arrière-petit-enfant est né. J'ai regardé cette petite fille et je me suis dit, elle rayonne d'une beauté que je ne croyais pas possible chez un nouveau-né. Immédiatement, je me suis rendu compte que la beauté que je voyais et le rayonnement que je percevais quand je regardais son visage venaient de sa pureté et que je les percevais à travers la lumière du Christ. Il est important que vous ayez confiance en cette précieuse capacité de voir plus que ce que les yeux physiques voient. Il n'y a pas besoin d'avoir reçu le don du Saint-Esprit. Par exemple, nous avions une voisine en Utah qui était veuve. Pendant des années, les membres de notre paroisse l'ont incluse dans leurs activités de fabrication, de couvertures piquées et autres. Elle appréciait leur amitié, mais ne montrait aucun intérêt pour l'Évangile rétabli. Elle m'a dit qu'un dimanche, après avoir déménagé au Nevada, en rentrant chez elle, elle se sentait sombre, découragée et seule. Quelqu'un a sonné à la porte. Elle m'a décrit ce qui s'est passé. Elle a dit, « J'ai ouvert la porte en me demandant qui cela pouvait bien être. Et là, sur le seuil, j'ai vu deux magnifiques jeunes filles, côte à côte. Et j'ai eu l'impression de voir une auréole autour de leur tête. » C'étaient des missionnaires venus parce que ma femme avait suffisamment d'amour pour cette veuve pour demander à un mission, président de mission d'offrir le don de l'Évangile de Jésus-Christ à son ami. Je me suis rendu à Las Vegas pour baptiser et confirmer cette veuve. Et ma femme et moi l'avons accompagnée quand elle est allée au temple pour la première fois. Pendant chacun de ces moments sacrés d'alliance, il m'a semblé percevoir une clarté autour d'elle, la même clarté que j'ai perçue en regardant avec amour mon premier arrière-petit-enfant. Vous avez vécu des moments similaires où vous avez ressenti l'Esprit du Christ, comme il se peut que vous le ressentiez en ce moment. Il en est ainsi parce que ces mots sont vrais. Je cite, toute âme qui vient sur terre, où qu'elle vive, quel que soit le pays dans lequel elle naît, qu'elle soit riche ou pauvre, reçoit à la naissance une dotation de cette première lumière qui est appelée la lumière du Christ, l'Esprit de vérité ou l'Esprit de Dieu, cette lumière universelle d'intelligence que chaque âme reçoit en bénédiction. Fin de citation. Vous avez peut-être perçu la lumière du Christ ce soir pendant cette veillée, dont l'objectif est de commémorer et célébrer la naissance de Jésus-Christ. Nous avons tous senti une influence nous pousser à être bons ou à aider quelqu'un dans le besoin. Nous avons tous éprouvé le désir accru de rester loin du mal. Et nous avons tous éprouvé le désir d'être moins orgueilleux, vaniteux ou critique, d'être davantage comme le Sauveur. En ressentant l'amour pur du Christ, nous avons davantage ressenti son amour pour les autres. La charité est l'amour pur du Christ. Ce que nous ressentons maintenant n'est qu'un début. Le Seigneur nous a promis à chacun un avenir glorieux de cette manière. Je cite, « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. » Certains d'entre vous qui nous regardaient et écoutaient ce soir ont été poussés à venir à nous dans l'espoir de trouver de la paix face aux chagrins de la maladie et de la mort qui font partie de la condition mortelle et nous touchent, nous et nos êtres chers. Je témoigne que Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde. Oui, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Oui, et aussi une vie qui est sans fin, de sorte qu'il ne peut plus y avoir de mort. » Fin de citation. Cela est vrai, grâce à son expiation et à sa résurrection, dont la portée s'étend à nous tous. Le président Monson, prophète vivant du Seigneur, nous donne cette assurance. Je cite, « De toute la force de mon âme, je témoigne que Dieu vit, que son Fils bien-aimé est les prémices de la résurrection et que l'Évangile de Jésus-Christ est cette lumière pénétrante qui fait de chaque aube sans espoir un matin de joie. » Fin de citation. J'ajoute mon humble témoignage au sien. Je rends témoignage que Dieu le Père vit et qu'il nous a fait don de son Fils bien-aimé parce qu'il nous aime. Je sais, aussi sûrement que je vis, que le Sauveur ressuscité est vivant. Il a expié pour nos péchés. Et je témoigne qu'il est la lumière du monde et la source sûre de réconfort, d'espérance et de joie. Je prie de tout mon cœur pour que nous nous approchions tous de lui, pour ressentir la chaleur de sa lumière et de son amour, au nom de Jésus-Christ, que nous adorons et servons. Amen.
Our Heavenly Father,
notre Père Céleste, notre cœur est rempli de paix, de joie et d'amour pour toi à la fin de cette veillée de Noël. Père, nous te remercions pour ceux qui nous ont parlé ce soir, pour leurs instructions, pour leurs paroles d'inspiration, pour l'esprit que nous avons ressenti dans leurs paroles. Nous sommes reconnaissants pour cette belle musique, ce chœur magnifique et pour l'orchestre. Nous te remercions, Père, pour le prophète vivant, notre cher président Thomas Osmondson. Nous prions pour qu'il puisse ressentir notre amour et notre soutien, ainsi que ceux qui sont à ses côtés, le président Ehring et le président Ohrdorf, et chaque membre du Collège des douze apôtres. Père, nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, tandis que nous célébrons sa naissance en cette période de Noël. Puissions-nous nous souvenir des nombreux dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous, et que nous puissions toujours nous souvenir de lui, en nous efforçant de lui ressembler davantage. Nous disons cela en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.